Midi 30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Anissa est là.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Dans une minute, c'est votre journal. Pierre de Villeneuve nous accompagne bien sûr jusqu'à 13h. Et puis juste après, on s'intéresse à ceux qui travaillent au quotidien en France à faire avancer la laïcité au lendemain de la grande manifestation à Paris et un peu partout en France. C'est eux qui ont la parole aujourd'hui dans La France qui bouge. On vous attend.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
La commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla vient de rendre ses conclusions et les charges sont lourdes.
Oui, puisque les rapporteurs estiment qu'Alexandre Benalla peut être poursuivi pour faux témoignage. La sécurité du président de la République a été affectée, estime Philippe Bas, le président de la commission. Nous sommes bien sûr au Sénat dès le début de ce journal et avec notre service police-justice, nous décrypterons ce qui attend Alexandre Benalla qui vient de passer une nuit en prison. Pour en savoir encore plus sur les travaux de cette commission, nous serons en ligne avec son vice-président, le sénateur François-Noël Buffet. L'actualité, c'est aussi l'antisémitisme en France, avec d'abord l'enquête sur celui qui a insulté Alain Finkielkraut, enquête qui nous emmène jusqu'à Mulhouse. Et puis vous entendrez comment une prof de la banlieue lyonnaise passe de la parole aux actes en éduquant ses élèves sur ce fléau. Dans ce journal également, un témoignage très fort ce matin sur Europe 1, alors que la polémique monte sur le retour des djihadistes détenus en Syrie, celui d'une mère dont le fils converti a été tué, mais elle ne l'a jamais revu. La métamorphose Air France, Ben Smith, le nouveau patron, a réussi à endiguer le conflit social. Nous sommes en direct de sa prise de parole. OL Barcelone, finalement, un match nul 0-0 et un héros dans l'équipe lyonnaise, le gardien de but Anthony Lopez. Enfin, les sorties ciné avec Mathieu Charrier, notamment l'excellent thriller Le Chant du Loup. La météo, Elena Morna, une après-midi très printanière.
Avec du soleil et des températures en hausse équivalentes à celles d'un mois d'avril, cette tendance printanière va s'accentuer d'ici vendredi. L'atmosphère sera alors digne un mois de mai.
Merci Elena, on vous retrouve tout à l'heure. Météo complète, ce sera juste avant 13h sur Europe 1. Et on commence donc, Pierre, par l'affaire Benalla et les résultats de la commission d'enquête sénatoriale.
7 mois d'enquête au cours desquels Alexandre Benalla a été entendu 2 fois, mais il n'y avait pas que lui, c'est tout l'entourage d'Emmanuel Macron qui a été auditionné. La commission présidée par Jean-Pierre Sueur et par Philippe Bas vient donc de rendre ses conclusions et les charges sont lourdes, Adrien Beck.
Oui, c'est un réquisitoire de 160 pages que vient de rendre public la commission d'enquête qui s'est bornée à étudier le fonctionnement de l'État. Eh bien, la conclusion, vous l'avez dit, est sans appel. Oui, la sécurité d'Emmanuel Macron a été affectée dans le cadre de cette affaire Benalla. Les mots du président de la commission, Philippe Bas, sont implacables. Dysfonctionnement, défaillance, imprudence, erreur au plus haut sommet de l'État, tout particulièrement après les incidents de la place de la Contrescarpe le 1er mai dernier.
Sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irrégulier, port d'une arme par M. Benalla en présence du président de la République, non-respect des règles de déontologie sur les conflits d'intérêts, maintien en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés, absence d'instruction donnée à la police de l'air et des frontières de ne pas permettre à M. Benalla de sortir au moyen de ses passeports diplomatiques ou de services. Cela fait tout de même beaucoup.
En filigrane, la commission laisse entendre qu'Alexandre Benalla aurait bénéficié de l'indulgence de l'Élysée. L'Élysée mise en cause directement dans cette affaire aux plusieurs facettes. 3 proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, son directeur de cabinet, le secrétaire général de la présidence ainsi qu'un général sont pointés du doigt pour avoir, je cite, retenu une part significative de la vérité dans leur déclaration. Quant à Alexandre Benalla, il a menti sous serment, assure la commission, mensonge sur sa demande de permis de port d'armes, sur ses passeports diplomatiques qu'il a assurait avoir rendu et sur la négociation d'un contrat de sécurité avec un homme d'affaires russe. La commission demande donc au président du Sénat de saisir la justice pour faux témoignage. Gérard Larcher a assuré ce matin que ce pourrait être fait.
Merci Adrien Beck en direct du Sénat pour Europe 1. Philippe Bas sera l'invité de Mathieu Béliard ce soir dans le 17-20 d'Europe 1. Pierre de Cossette, je me tourne vers vous. La commission du Sénat demande aujourd'hui officiellement à la justice d'enquêter sur un certain nombre de mensonges sous serment d'Alexandre Benalla, mais pas seulement.
Oui, Adrien Beck vient d'en parler. Alexandre Benalla, en effet, pour son permis de port d'armes, pour ses passeports diplomatiques, soi-disant restitués à l'Élysée après son licenciement, et enfin pour son implication dans le contrat conclu par son comparse Vincent Crase pour assurer la sécurité d'un oligarque russe réputé proche de Vladimir Poutine. Tout cela mérite un article 40, un signalement du Sénat au procureur de la République de Paris et une enquête pour faux témoignage. Passible, je vous le rappelle, de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende. Benalla donc, Vincent Crase aussi soupçonné par les sénateurs de parjure, mais aussi trois hauts responsables de l'Élysée. Patrick Strauda, le directeur de cabinet, Alexis Kohler, le secrétaire général, et le général Lionel Lavergne, le chef du GSPR, le groupe de sécurité du président de la République. Dans la lettre de 4 pages adressée au président du Sénat, la commission d'enquête considère qu'il y a eu dans leurs déclarations des omissions, des incohérences et des contradictions. Ils ont donc retenu une part significative de la vérité, on vient de l'entendre, et pour eux, le procureur devrait également se poser la question de possibles poursuites.
Pierre, tous ces mensonges aux yeux des sénateurs avaient, semble-t-il, un but, un seul, masquer le véritable rôle d'Alexandre Benalla.
Oui, quel était le poste précis du chef adjoint de cabinet? Tous ces responsables ont juré qu'il n'avait pas de rôle dans la sécurité du président de la République. Les sénateurs estiment, au contraire, après 7 mois de travail, que oui. Il y a par exemple sa position physique dans les déplacements, ce qu'on appelle l'épaule traditionnellement dévolue à un policier ou à un gendarme du GSPR au plus près du président. Ensuite, ce port d'armes attribué à la grande surprise des sénateurs à Benalla en passant par la préfecture de police. On apprend d'ailleurs que si ça n'avait pas pu se faire, Alexandre Benalla avait prévu de passer par un décret du président de la République. Et puis, il y a aussi son implication dans un groupe de réflexion sur l'avenir de la protection de la présidence, discussion en tout petit comité. Que faisait Benalla dans ce groupe de réflexion? J'ajoute pour conclure que les sénateurs s'étonnent d'avoir eu besoin d'énormément de temps avant que l'Élysée ne leur adresse la fiche de poste, la lettre de mission d'Alexandre Benalla.
Eh bien, merci de ces précisions, Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1.
Accueillons maintenant le vice-président de cette commission d'enquête. Bonjour François-Noël Buffet.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous sur Europe 1. Le rapport, on vient de le comprendre, est accablant. Est-ce que vous considérez qu'Alexandre Benalla a mis en danger la sécurité du président de la République?
Incontestablement, oui. À la fois par son rôle, officiel, qui devait être de chargé de mission au sein du cabinet, mais en réalité sur son rôle réel, qui a consisté de façon régulière et permanente à intervenir dans la protection du président de la République. Il avait un rôle extrêmement important, mettant sans doute ou peut-être en difficulté les services qui en ont la charge, n'osant sans doute eux-mêmes ne pas lui dire que ce n'était pas son rôle. Donc à un moment ou à un autre, des dysfonctionnements internes à notre administration d'une part, mais également une forme de peut-être de faiblesse à son endroit dans son activité quotidienne, pouvait, à un moment ou à un autre, mettre en difficulté la sécurité du président de la République.
Ce que vous notez également, et Muriel Jourda, la co-rapporteuse, l'a noté, c'est l'incompréhensible indulgence et confiance envers Alexandre Benalla.
Ah oui, c'est ce qui ressort de tout ce travail fait au Sénat, c'est cette forme, j'ose même presque dire, de complaisance ou de faiblesse. Nous avons observé régulièrement que le dossier avançait, le travail de la commission avançait, au fur et à mesure où nous posions des questions ou au fur et à mesure où des révélations étaient faites, mais qu'il n'y a jamais eu véritablement de spontanéité dans les déclarations. Il a fallu à chaque fois aller chercher l'information et obliger à la révélation de cette information.
Vos conclusions donnent lieu à des recommandations, il n'y a donc pas d'injonction. Est-ce que vous avez espoir qu'il se passe quelque chose?
Il faut non seulement de l'espoir, mais il faut véritablement que cela soit fait. On ne peut pas, quel que soit le président de la République, continuer d'être dans une gestion aussi hasardeuse des conditions de sécurité du président, de ses collaborateurs qui ont besoin parfois de passeports, de documents ou qui doivent intervenir. Il est incontestable que ces carences doivent être absolument modifiées et que des pratiques doivent être changées.
Vous parlez des collaborateurs officiels ou des collaborateurs officieux, puisque vous dites, avec la commission, il faut que ça cesse, que ces collaborateurs officieux, ça s'arrête. Ça veut dire qu'il y en a encore.
Absolument. Absolument. Nous disons qu'il faut que le collaborateur, tous les collaborateurs qui sont au cabinet du président de la République.
Y compris Alexis Kohler, y compris Patrick Strauda.
Absolument. Les définitions de poste doivent être absolument claires. Les contrôles effectués avant leur prise de poste doivent être renforcés. Et les conditions dans lesquelles les uns ou les autres obtiennent ou ont des moyens pour exercer leur mission soient parfaitement clarifiée et transparente. C'est une des conditions majeures de sécurité du dispositif et de la sincérité du fonctionnement au plus haut niveau de l'État.
Eh bien, merci François-Noël Buffet, vice-président de cette commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Salomé Legrand, on va reparler avec vous d'Alexandre Benalla, car l'intéressé a passé la nuit en prison.
Et oui, en détention provisoire, car il n'aurait pas respecté son contrôle judiciaire qui lui interdisait d'entrer en contact avec l'autre mis en examen, Vincent Crase. Le contrôle judiciaire a donc été révoqué par le juge des libertés et de la détention. D'après nos informations, Alexandre Benalla est arrivé à la prison de la Santé hier soir vers 23h30, numéro d'écrou 303-477. Pour l'instant, il se trouve au quartier arrivant, c'est la procédure normale, mais il devrait ensuite être incarcéré dans l'aile des détenus dits vulnérables, car il n'y a plus à la Santé de quartier VIP. Les personnalités médiatiques y sont désormais placées avec les détenus qui font l'objet de menaces de la part d'autres détenus. C'est par exemple le cas des auteurs de crimes sexuels. Concrètement, il s'agit d'un couloir de 25 cellules avec des mouvements différenciés, c'est-à-dire que quand ils sortent, ils ne croisent pas les autres détenus, par exemple pour les promenades, mais ils n'ont pas de traitement de faveur. Alexandre Benalla sera donc voisin du rappeur MHD, par exemple, dans l'une de ces cellules fraîchement rénovées de 8 à 9 mètres carrés avec douche, frigo, téléphone fixe, dont les conversations sont surveillées. Pour combien de temps? C'est toute la question. Son avocate a déjà fait appel et déposé un recours en référé pour demander sa remise en liberté.
C'est presque une enquête de voisinage, si j'ose dire. Merci Salomé Legrand. Je signale aussi que le Conseil constitutionnel a été saisi par Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion, et cela pour contester son renvoi devant le tribunal correctionnel dans l'affaire des dépassements financiers lors de sa campagne électorale de 2012.
Il est 12h41, vous écoutez Europe 1, la suite du journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Emmanuel Macron sera ce soir, Pierre, devant les institutions juives de France, et le CRIF attend des actes du président.
Et le discours du chef de l'État sera scruté au peigne fin hier à Katzenheim en Alsace devant cette centaine de tombes profanées. Il a clairement dit que les auteurs seront punis sur l'agression ignoble d'Alain Finkielkraut. L'enquête nous mène jusqu'à Mulhouse où vous vous trouvez, Arthur Elmbaché. L'agresseur s'appelle Benjamin et ce jeune converti a été en contact avec les gilets jaunes du coin.
Oui, bonjour Pierre. De manière éphémère, avant d'être mis à l'écart au mois de décembre, au rond-point d'une zone commerciale au nord de Mulhouse, j'ai montré tout à l'heure sa photo au gilet jaune présent ce matin.
Vous avez vu son visage sur le téléphone, vous avez reconnu tout de suite ?
Oui, bien sûr, je l'ai reconnu. Il y en a d'autres qui l'ont été reconnu. Après, voilà, nous, on a préféré de pas tenir compte de cette personne, c'est tout.
Les gens comme ça, ils salient notre mouvement. Et voilà, j'espère que ce mec-là, il sera condamné. On ne parle pas de religion, nous. On n'est pas là pour dire... Ici, il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des athées, il y a tout. Mais on n'est pas là dans une optique où on va dire athées juifs, on va critiquer, on n'est pas là. On est là pour... Franchement, la même cause, c'est être citoyen français avant tout, et voilà.
Alors cet homme qui a insulté Alain Finkielkraut à Paris tient une boutique de réparation de smartphones ici au centre-ville de Mulhouse, père de 5 enfants, 36 ans, son prénom Benjamin, ou plutôt Souleymane, puisque comme nous le confirme son voisin du dessous, Ahmed, il s'est converti à l'islam.
Oui, ce qu'il a fait là, je ne sais pas pour quel, je ne sais pas, il a les nerfs, je ne sais pas pourquoi qu'il arrive ça, normalement c'est une personne normalement gentille et tranquille, il travaille, je sais qu'il travaille toujours.
Près de sa boutique ici au centre-ville, des voisins nous parlent aussi d'un homme calme et bien inséré socialement qui est donc depuis hier soir en garde à vue au commissariat de Mulhouse.
Merci Arthur Elmbaché, correspondant d'Europe 1 dans l'Est. On l'apprend à l'instant, des tags antisémites ont été découverts aujourd'hui sur un monument aux morts du cimetière de Champagne au Mont d'Or. C'est un village de l'ouest lyonnais, des croix gammées notamment, avec des inscriptions... Pardon, à vous Raphaël.
Et si le chef de l'État doit donner une ligne directrice pour la lutte, hein, on vient d'en parler contre l'antisémitisme, certains, on va le voir Pierre avec vous, le font déjà, en tout cas à leur échelle.
Exactement, et on va rester justement dans cette région lyonnaise, c'est le cas d'une prof d'histoire. Elle applique la lettre envoyée par Jean-Michel Blanquer pour signaler tout acte antisémite ou raciste, mais au-delà de ça, elle a ses méthodes, et vous allez entendre, c'est productif. Virginie Salmen.
Pas question de laisser s'installer des idées antisémites dans sa classe. Karima, professeure d'histoire en banlieue lyonnaise, sait que ses élèves, des collégiens, véhiculent des préjugés.
Ils vont dire par exemple que les juifs sont riches, sont radins, ils gouvernent, ils ont les meilleurs postes et tout. Et ça, c'est ce qu'ils mettent derrière le mot juif, alors qu'ils n'en connaissent pas. Les jeunes qui véhiculent des préjugés, c'est parce qu'ils sont ignorants. ils ne savent pas.
Sa méthode, qui a fait ses preuves depuis 15 ans, c'est de leur dire qui sont les Juifs en les confrontant au terrain. Elle les emmène à Auschwitz, organise des sorties scolaires avec des élèves d'une école privée juive et elle leur montre à tous leurs points communs.
Je leur fais comprendre que c'est aussi leur histoire dans le sens où leur grand-mère, par exemple, à une certaine époque, réchauffait les plats de leur voisine juive durant Shabbat. Elle cuisinait les mêmes plats. Elles préparaient les fêtes ensemble, chez l'une et chez l'autre. Elles allaient au hammam ensemble, avec les mêmes rituels.
Et à la fin de l'année, ils sont moins ignorants grâce à ce cocktail de connaissances, de pratiques. Et surtout, ils ont acquis un vrai esprit critique. Karima ne jure que par cette méthode et elle voit des générations d'élèves transformées.
Reportage de Virginie Salmen.
Et il est 12h45. Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Le témoignage très fort d'une mère de djihadiste alors que se pose la question de savoir si l'Europe doit les extraire de Syrie. A tout de suite.
12h46 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Avec un témoignage maintenant, Pierre, alors que se pose la question du retour des djihadistes de Syrie.
L'État islamique vit ses derniers jours en Syrie et sous la pression américaine, les États européens se voient dans l'obligation de trancher. Doit-on faire revenir tous ces jeunes partis faire le djihad ? L'Europe peine à trouver un consensus et pendant ce temps, certains parents pleurent la mort de leurs enfants. C'est le cas de Véronique Roy. Son fils Quentin est décédé en janvier 2016. Elle était l'invitée ce matin de Nikos Aliagas sur Europe 1. Ce qui est terrible pour elle, c'est qu'elle n'a pas pu faire son deuil, il n'y a pas de corps, mais il se peut donc que son enfant soit tout de même jugé.
Notre fils est mort, il sera convoqué à la barre. D'accord ? On convoque les morts. Il sera vraisemblablement puni, puisque pour l'instant, il est accusé de quoi ? D'être parti rejoindre un groupe qualifié de terroriste. Maintenant, sur ce qu'il aurait fait, je n'ai aucune information.
Vous voyez, vous sentez victime faire... vous-même, madame ?
Ah, mais moi, je suis victime en tant que parent. On m'a chopé mon enfant.
On vous a volé votre enfant.
Vous voyez, c'est un jeune adulte, mais un jeune quand même. Il n'était pas mineur. Les enfants qui partent ne partent pas avec un pistolet sur la tempe. Ils partent, ils ont une prison mentale qui est plus forte que la prison physique.
Vous dites peut-être au nom des autres parents qu'il faut que les ressortissants français reviennent en France pour que vous puissiez comprendre.
Absolument.
Et pour que nous puissions, l'État français, les
pour
juger.
Pour que je puisse comprendre, que mon mari puisse comprendre, que mon fils aîné puisse comprendre, que mon petit-fils né en France puisse comprendre, que pendant 20 ans je puisse lui dire la vérité, que vous puissiez comprendre,
Sans juger.
Parce que si on sous-traite la justice à l'étranger, on ne connaîtra pas ni les tenants ni les aboutissants.
Véronique Roy, invitée de Nikos Aliagas ce matin sur Europe 1. Elle publie « Quentin, qu'ont-il fait de toi ?» aux éditions Robert Laffont.
La suite du journal d'Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Un mort après la terrible avalanche, Pierre, hier dans la station de Crans-Montana en Suisse.
Oui, c'est l'un des quatre skieurs blessés qui a succombé à l'hôpital. Il s'agit d'un Français âgé de 34 ans. Les recherches qui ont duré toute la nuit ont été interrompues ce matin. Elles reprendront si la situation l'exige. Pendant ce temps, trois départs de feu ont été signalés dans la station des Arcs, 1800 en Savoie cette nuit. Pas de blessés mais une grosse frayeur pour 440 personnes qui ont été évacuées. 8 personnes ont été relogées.
Air France maintenant et le patron Ben Smith a pris la parole tout à l'heure.
Pour présenter les résultats qui sont bons, pour afficher la bonne santé de la compagnie, mais pas que Aurélien Fleureau. Vous êtes sur place. L'idée avant tout c'était de dire aux usagers que le conflit social était derrière nous. Aurélien Fleureau.
Après... Oui, un an après le début d'un mouvement social qui avait eu pour conséquence 15 jours de grève et le départ de Jean-Marc Janaillac, le nouveau patron d'Air France KLM peut se targuer d'avoir remis la compagnie en ordre de marche. Des accords sur les salaires ont été signés avec toutes les catégories de personnel. Hier encore avec les pilotes qui ont obtenu 4% d'augmentation. Le principal syndicat, le SNPL, était en pointe pendant les grèves, mais leurs représentants ont changé, signe que tout le monde souhaite aller de l'avant. Et c'est donc un Ben Smith souriant qui s'est présenté pour la première fois devant la presse.
Avant de commencer, je voulais simplement vous dire à quel point je suis heureux et fier de diriger un groupe comme Air France KLM, composé de 3 marques fortes et de plus de 84 000 salariés.
Et quelques mots en français avant de poursuivre en anglais pour évoquer la stratégie d'Air France qui passera principalement par une montée en gamme à partir de l'été 2019. En clair, attirer à nouveau un maximum de voyageurs business, souvent partis chez les concurrents du Golfe. Autre volonté de Ben Smith, capitaliser sur la force de la marque Air France. en simplifiant l'offre. Fini par exemple June, la compagnie low cost long courrier. La flotte régionale s'appellera désormais Air France Hop. Donc il faut que la marque Air France soit plus visible. Ben Smith n'abandonne pas pour autant le low cost. La compagnie Transavia marche très bien avec une croissance et une marge record en 2018 et il espère renforcer cette offre.
Merci Aurélien Fleureau au siège d'Air France pour Europe 1. Dans l'affaire Fiona, la mère Cécile Bourgeon sera fixée cet après-midi pour savoir s'il y aura un nouveau procès en appel, ce qui lui permettrait de sortir de prison alors qu'elle a été condamnée à 20 ans de réclusion.
Il est 12h51. Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Il a été le mur de la soirée. Anthony Lopez, le gardien de l'OL, a arrêté tous les buts du Barça. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 12h53 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et c'est finalement sur un match nul que s'est soldée la rencontre OL Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.
Ouais, 0-0. Et s'il y a un héros dans l'équipe lyonnaise, c'est bien Anthony Lopez. Le gardien de but a été spectaculaire, Cyril de la Morinerie.
Oui, il a réalisé 6 parades décisives, notamment sur une frappe de Messi, de Coutinho ou un boulet de canon de Busquets. Barcelone a frappé 25 fois au but. Mais en face, il y avait un roc, le gardien de 28 ans, formé à Lyon, originaire de Gisors, qui n'est pas très grand pour un gardien, 1m84, mais on a l'impression qu'il est sur un trampoline. Logique, quand on est formé à si bonne école, de Bats en passant par Coupé jusqu'à Hugo Lloris. 3 gardiens de l'équipe de France, 3 gardiens formés à Lyon. Mais Anthony Lopez, lui, a choisi le Portugal, champion d'Europe en 2016, même si dernièrement il a renoncé à la sélection pour différentes raisons. Père de famille, il préfère rester auprès de ses enfants. Une décision finalement un peu à l'opposé de son image de bad boy. La saison dernière, il a giflé un membre du staff de l'OM, il a pris part à des débordements à Bastia, il a rayé le nom du voisin Oni Saint-Etienne sur son maillot de Coupe de France. Mais ça, c'est du passé. Anthony Lopez veut s'illustrer dans 3 semaines au Camp Nou, à sa façon, en écœurant Lionel Messi et ses coéquipiers.
Merci mon cher Cyril de la Morinerie. 2 matchs de foot encore ce soir, des matchs décalés à cause des manifs des Gilets jaunes. Bordeaux-Guingamp à 19h qui compte pour la 23e journée de Ligue 1, et PSG Montpellier à 21h comptant pour la 17e. Le cinéma, les sorties ciné. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Alors il y a un film à voir aujourd'hui, c'est le très attendu Chant du loup qui nous emmène avec les sous-mariniers français.
L'histoire en quelques mots, un vieux sous-marin nucléaire russe tire un missile en direction de la France et les autorités pensent que ce missile est équipé d'une tête nucléaire. Ni une ni deux, le président décide d'une riposte. Ordre est donné à notre sous-marin l'effroyable de lancer à son tour un missile nucléaire. Sauf que juste après, l'armée se rend compte de la supercherie. En fait, le missile n'est pas chargé et il a été tiré par des djihadistes. Objectif que la France riposte contre la Russie et déclenche, elle, cette guerre nucléaire mondiale. Il faut stopper ce missile français. Le problème, c'est qu'une fois qu'un tir nucléaire a été ordonné, le sous-marin doit cesser toute communication et tirer. C'est la procédure impossible de l'arrêter. Ça, c'est pour la trame de l'histoire, ce film d'action très réussi. Et puis, il y a aussi une plongée dans le monde des sous-mariniers. On découvre notamment l'oreille d'or, celui qui est chargé de guider le sous-marin en fonction des bruits qu'il entend, car évidemment, impossible de voir ce qui se passe. Bref, un bon film d'action français, intelligent, réussi. Allez-y, le Chant du loup, avec notamment François Civil, Reda Kateb ou Omar Sy.
Alors, on y va. Merci Mathieu Charrier, Monsieur Cinéma d'Europe 1.
Merci Pierre, on vous retrouve d'ici quelques minutes pour les grands titres de l'actualité.
Il est 12h55.
Europe 1.
Vous restez avec nous. Gros plan aujourd'hui sur les acteurs de la laïcité en France, ceux qui font justement dialoguer les différentes religions entre elles. On vous attend, bien sûr, c'est votre émission 3921. A tout de suite. Un coup d'œil sur les grands titres avec vous, Pierre de Villeneuve.
La commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla demande au bureau du Sénat de saisir la justice pour faux témoignage à l'encontre de celui qui a été incarcéré hier à la prison de la Santé après avoir été placé en détention provisoire. Dans l'enquête sur les violences du 1er mai, la commission d'enquête dénonce les dysfonctionnements majeurs et pense que la sécurité du président de la République a été entachée. Philippe Bas, le président de cette commission, sera l'invité de Mathieu Béliard tout à l'heure dans le 17-20 d'Europe 1. Au lendemain de la profanation de près d'une centaine de tombes juives en Alsace, des tags antisémites découverts aujourd'hui sur un monument aux morts du cimetière de Champagne au Mont d'Or, un petit village de l'ouest lyonnais. Le principal suspect des injures caricature antisémite proférée à l'encontre d'Alain Finkielkraut a été placé en garde à vue à Mulhouse. Et puis, huitième de finale de la Ligue des Champions. Finalement, c'est un 0-0 entre l'OL et le Barça.
Merci Pierre, à tout à l'heure.
Et c'est l'heure de la météo sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec Elena Morna, dites-moi, ce serait pas printanier encore aujourd'hui?
Ah bah oui, ce sera non seulement printanier aujourd'hui, mais aussi tout au long de la semaine pendant 7 jours. Alors aujourd'hui, on a des températures qui vont entre 10 et 20 degrés, le tout sous le soleil. Alors c'est vrai que les derniers nuages se dissipent actuellement sur le nord-ouest. On en a encore qui vont circuler gentiment entre la Bretagne et l'Alsace. Et puis à partir de demain, effectivement, ce sera de plus en plus doux, de plus en plus ensoleillé. La journée la plus douce de la semaine sera pour vendredi.
7 jours, c'est fabuleux. Ouais. Vous revenez quand vous voulez avec des bonnes nouvelles comme ça.